Une tâche extrêmement importante. C'est un tournant dans la vie du clan d'Israël. Quelque chose va se passer, se passe dans cette paracha de Shlach Lecha qui va changer complètement la trajectoire du clan d'Israël. Les Israël sont sortis d'Égypte. En 11 jours, ils devaient arriver en Eretz Israël. C'est un secret pour personne que les Bnei Israël ne sont arrivés en Eretz Israël que 40 ans plus tard. Et la raison pour laquelle ils sont arrivés 40 ans plus tard, cette raison, elle est. Cette raison, elle est
Allô?
dans Parshat Shlach Lecha.
Allô?
Donc, c'est absolument tragique. N'est-ce pas? Il va y avoir, en gros, on va le voir un peu dans le détail, il y a une délégation de, a priori, c'est des princes d'Israël,
Allô?
qui sont envoyés pour espionner en quelque sorte la terre d'Israël. Et ils reviennent avec un. Ils reviennent et ils font un rapport. Et ce rapport va terroriser les Bnei Israël qui vont pleurer une nuit entière et qui vont dire que finalement, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Bon, plusieurs fois, les Bnei Israël ont dit, ont exprimé la nostalgie de l'Égypte, etc. Mais là, maintenant, ça se présente comme si on passait un cap. Alors, on va regarder dans le texte d'abord, très simplement. Comme vous savez, on a deux versions en réalité des explorateurs, de l'envoi des explorateurs. On a la version de notre paracha dans Shlach Lecha, mais Moshe Rabbeinu lui-même, dans le Sefer Dvarim, il va raconter à sa manière la même histoire, avec évidemment des différences. Ce sera vu du côté, vu sous un aspect, du côté de Moshe Rabbeinu, disons. Ce n'est pas simplement la narration de ce qui s'est passé. Hachem, chez nous, le texte commence. Vaydaber Hachem el Moshe l'emor, Shlach lecha anashim. Hachem parle à Moshe Rabbeinu et il lui dit, envoie des gens, envoie les gens pour toi. C'est comme si c'était ton initiative. Viatou et Eretz Kenan, qui vont espionner, qui vont en fait explorer, disons, je veux dire, le pays de Canaan. Asher, Ani noten livnei Israël, ce pays que moi, Hachem, donc, je donne au Bnei Israël. Et tu vas envoyer. Ishechad le maté avotav, envoyé un délégué par tribu, un représentant de chaque tribu. Tous des princes en vérité. Kol nasi, tous des princes, des chefs, des princes. Et Moshe Rabbeinu les envoie et on précise, il a envoyé ces gens du désert de Paran. On avait passé du désert du Sinaï dans le désert de Paran la semaine dernière. Alpi Hachem, donc on reprécise qu'il les a envoyés Alpi Hachem. Alpi Hachem, ça veut dire sur l'ordre d'Hachem. Kulam Anashim, tous ceux qui sont envoyés là, c'est Anashim, des hommes, Raché ibn Israël, des chefs d'Ibn Israël, Velesh Motam, et voici la liste de leurs noms. Et on nous donne la liste de ces noms. Donc ces gens qui sont envoyés sont des princes, des Nessim, des Tzadikim a priori. C'est eux qui sont envoyés. Dans le récit que Moshe Rabbeinu va faire de cette même opération d'exploration, là, au tout début du Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu va dire un peu différemment. Il va dire au Bnei Israël, il leur dit, c'est au début de la troisième montée de Parshat Dvarim, donc au chapitre 1 de Dvarim, au verset 22, où Moshe Rabbeinu nous dit « Vatikruvun elai kulchem »« Vous vous êtes approchés de moi tous »« Vatomru » et vous avez dit « Nishlecha anashim lefanenu » En voyant des gens devant nous, donc des explorateurs, en éclaireur, en quelque sorte, viyachperu lanu et haaretz, et ils vont espionner pour nous la terre, le pays, viyashivu otanu davar, et ils nous rapporteront une parole, c'est-à-dire ils vont nous faire un rapport. Et puis, grâce à cette parole, ben, nous saurons et à derer hacher naale ba. On saura quel chemin prendre pour monter dans ce pays, donc pour l'envahir. Et ils vont nous dire, vete harim hacher navo alehen. Ils vont nous dire également quelles sont les villes vers lesquelles nous allons aller. Et Moshe Rabbeinu nous dit, c'est toujours Moshe Rabbeinu qui, tout le Sefer Dvarim, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Ça se, c'est dit en un peu plus qu'un mois. Vaitav be'enai, adavar. La chose m'a plu, vaitav, c'était bon à mes yeux. Vaikach mikem. Et j'ai pris parmi vous 12 hommes, Ishechad la Shabbat, une personne par tribu. Vayifnu, vayalu, ahara, vayavo, adnachaleshkol, vayraglota. Et on nous dit comment ils sont, vers où ils sont partis, etc. Et puis à ce récit, et voilà, ils sont. Ils ont pris les fruits de la terre, etc. Je reviens dans notre paracha. Vous voyez une grande différence dans le récit que Moshe Rabbeinu nous fait. Ce sont les Bnei Israël qui demandent à envoyer les explorateurs. Moshe Rabbeinu nous dit « ça m'a plu ». Chez nous, le texte nous dit que Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu de les envoyer, mais il lui a dit « tu les envoies, mais c'est pour toi ». C'est ton initiative. Donc, on a l'impression que c'est un raccourci, quoi. C'est l'initiative, c'est bien Moshe qui l'apprend de le faire, mais elle est suscitée par la demande d'Ibn Israël. Et on ne voit pas dans la description que Moshe Rabbé nous donne dans le Sefer Dvarim, mais on ne parle pas d'Hachem. Il leur dit, vous m'avez dit, ça m'a paru bien, je l'ai fait. On ne parle pas là-bas du fait que Hachem lui en a donné l'ordre. Donc ici, comme c'est marqué que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi pour ton initiative, comme si Moshe Rabbeinu avait eu besoin d'envoyer des explorateurs. Alors regardons Rashi. Ceux qui ont Rashi, regardez le Rashi du début. Shlach lecha anashim. Rashi commence par une question qui est fréquemment posée au début de chaque paracha. On demande toujours pourquoi cette paracha est juxtaposée à la paracha précédente. Lama nismecha parashat meraglim, parashat Myriam. Ce dont on a parlé à la fin de la paracha précédente, c'est l'histoire du Lashon Hara de Myriam et Aaron contre Moshe. Tout le monde s'en souvient, je pense. Alors Rashi dit, le fils chez l'acta al iske diba, elle a été frappée parce que elle a parlé, c'est du Lashon Hara en fait. J'ai dit Ibra Be'achia. Elle a parlé contre son frère. Ou Rechaim Alalo. Et ces Rechaim, là, on ne sait pas du tout qui sont encore des Rechaim. Hein. Rashi se réfère à ce qui va se passer. Là, au début de la paracha, c'est des Tzadikim. L'Olakrou Moussa. Eux, ils ne se sont pas inspirés. On ne peut pas tirer de moussard de ce qui était arrivé à Myriam. Alors, Shlach lecha, le da'atra. C'est ton da'at. Donc, quelque part, ça veut dire, toi, ta réflexion te mène à le faire. C'est un da'at, c'est mûrement réfléchi. Ani, eni metzave lecha. Mais Hachem lui dit, moi je ne te l'ordonne pas. Im tirtse, shlach. Si tu veux, envoie. Et maintenant, Rashi nous rapporte ce qu'on sait dans le Dvarim. Le fils est Baou Israël, Ve'amrou, Nishlecha, Anashim, Lefanenu. Puisque les Bnei Israël sont venus, ils ont dit, on veut envoyer les explorateurs. Moshe Neymar, comme c'est marqué dans les psukim de Dvarim qu'on a lu, Vatikrevu Nelai Kulchem, ou Moshe Nimlach Bashchina. Et donc Moshe Rabbeinu l'a consulté, Bashchina, il a consulté Hachem. Alors, Amar, semble-t-il, Hachem a répondu. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué Amar, parce que la Shrina, c'est féminin, normalement. Ani Amar Tilaem Shei Tova. A priori, c'est bon. C'est Hachem qui parle, bien sûr. Moshe Rabbeinu, lui aussi, il avait parlé de ça. Je leur ai dit que le pays était bon. Et on cite le Pasuk. Ale Etrem Me Oni Mitzrayim. Je vous monte de la pauvreté de l'Égypte, etc. Chayem, Shani noten laem makom litot. Le divrei amraglim. Le ma'an lo irashua. C'est terrible. C'est une Gemara. Midrash, Gemara. Il dit, moi je leur ai dit que c'était bon. Et eux, ils veulent envoyer des explorateurs. Alors, Hachem, Chayem, ça veut dire, c'est un serment. Hachem fait un serment. Je vais leur donner Makom Litot, me dit vrai Amraglim. Je vais leur donner une possibilité de se tromper. dans les paroles ou avec les paroles des explorateurs, les Ma'an, afin que Lo Yerashua, afin qu'ils n'héritent pas de cette terre. Effectivement, la conséquence, ça a été que tous les hommes de cette génération, à l'exception de Caleb et Joshua, tous les hommes de cette génération vont mourir dans le désert et n'hériteront pas de la terre. Leurs enfants vont en hériter, mais eux, non. C'est absolument terrible. C'est quasiment une espèce de l'éradication de toute une génération. Et pas n'importe quelle génération, celle qu'on appelle le Dordéa, la génération qui est sortie d'Égypte, qui a passé la mer, qui était au Sinaï, qui était Mekabel la Torah, qui a fait la guerre contre Amalek. Cette génération-là, tous les adultes de cette génération-là vont mourir. Tous les hommes, les femmes ne meurent pas. Rashi, il a un travail parce que le verset suivant, on s'est arrêté dans la traduction, le verset dit « Alpi Hashem ». C'est sur l'Alpi Hashem, ça veut dire sur l'ordre d'Hashem. Alors Rashi traduit « Birshuto », ça veut dire avec son accord, « Shelo Ikev » à l'Iado. Hachem n'a pas empêché Moshe de le faire. Ils sont tous Anashim. Alors Rashi dit, le mot Anashim dans la Torah, ça veut toujours dire Lashon Chashivut. C'est des gens importants, des gens bien. Ve'ota sha'ak sherim ayu. À ce moment-là, ils sont complètement cachers. Ce problème de retourner en Égypte, ce qu'ils vont dire par la suite, c'est quelque chose qui était là dès le départ. Vous vous souvenez, dans le Sefer Shemot, quand les Bnei Israël sortent de Mitzrayim, si vous prenez le chapitre 13, dans Shemot. Au verset 17. Donc au tout début de Parshat Beshalach. Pasuk dit que quand Paro a renvoyé les Bnei Israël, alors Hashem, enfin Elohim, Lo Nacham Elohim derech Eretz Plishtim. Elohim ne les a pas dirigés à travers le pays des Philistins. Le chemin le plus court, évidemment, c'était de remonter le long de la côte. Par Gaza. On passait par Gaza et on était en Eretz Israël. Gaza, c'est le pays des Plishtim, les Philistins. Et il n'a pas envoyé Kikarovou. Pourquoi? Parce que c'était un chemin qui était trop proche. Ki Amar Elohim. Elohim a dit Ben Inachem Ha'am Biro'otam Milchama. De peur que le peuple, voyant la guerre nécessaire, donc pour passer par chez les Plishtim, que le peuple change d'avis, Meshavu Mitzrayim, qui retourne en Égypte. Et donc, Hachem leur a fait faire tout un détour. Et Rashi dit que Birotam Milchama, c'est Rashi dit Imalchou Derech Yachar, Ayu Chozrim. S'ils avaient pris le chemin le plus direct, ils seraient revenus en arrière. Vous voyez ce problème de revenir en arrière en Égypte. Revenir en Égypte. Il est donc là au moment de la sortie d'Égypte. Ils viennent de sortir d'Égypte avec les Makot, avec tout ça. Mais s'ils voient qu'il faudra faire la guerre, Hachem sait qu'ils vont retourner en Égypte. Si même quand on leur fait faire le détour, ils ont plusieurs fois dit qu'ils voulaient retourner en Égypte, plus forte raison s'ils avaient été sur le chemin direct. À ce moment-là, ils étaient, à tout moment, ils étaient tout près de l'Égypte. La Torah nous dit, donc ici, une information que sur Elohim lui-même. Elohim s'est dit, je ne l'ai fait pas passer par la Eretz Plishtim, par le pays des Plishtim, je ne prends pas le chemin le plus court, sinon il retourne en Égypte. Donc la Torah nous informe une espèce de une pensée divine, quoi. Qui montre combien le retour en Égypte est une obsession quasiment du peuple depuis le début. Dans leur tête, ils ne sont pas définitivement sortis d'Égypte. Ils veulent bien, mais la moindre difficulté, non, mais on retourne en Égypte. Et donc, quand chez nous, ils vont dire, on va choisir un chef et on va retourner en Égypte, ils redonnent de nouveau une expression à ce désir qui était chez eux là, au moment de la sortie d'Égypte. Donc, ce qui se joue là, ça a sa source dans la naissance même du clan Israël. Ensuite, on va expliquer que tout ça, ça va... Le jour où ils vont tous pleurer, etc., c'est le 9 Av, qui va être une date fatidique quasiment pour les Bnei Israël dans toute leur histoire. Donc le peuple est un peuple qui a peur. Et ils ont peur de la guerre, a priori. Alors regardons le rapport et puis la tâche qui leur avait été assignée. Moshe Rabbeinu leur a dit Alouzé ben Negev. Donc vous allez entrer par le Negev, dans le sud, et vous allez regarder. Ça c'est le verset Yutret. Donc le verset 18, vous allez observer les choses, le pays, essayer de savoir Mahi, c'est quoi ce pays exactement. Et Ta'am, vous allez aussi regarder le peuple. Est-ce que le peuple Et qu'il habite dans des villes qui sont des villes ouvertes ou des villes fortifiées. Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Quelle est la qualité de la terre? Est-ce que la terre est grasse ou non? Etc. Bon, on nous donne des informations. Alors, ils l'ont fait et ils ont coupé des sarments de vigne avec une grappe gigantesque. Et tous les fruits qu'ils ont ramenés, les fruits étaient des fruits gigantesques dont on n'a plus jamais entendu parler par la suite. Bon, ce n'étaient pas les fruits standards de ce pays. Quand on est entré dans ce pays, il n'y avait plus de fruits de ce genre-là. C'est vrai que c'était 40 ans plus tard, mais on n'a jamais entendu parler de ces fruits, sauf à ce moment-là. Bon, ils ont fait une exploration qui a duré 40 jours. Et ils sont revenus et ils vont faire un compte-rendu. On les commence par, avant de parler, ils montrent les fruits de Eretz Israël. Et ils racontent. Ils font un rapport à Moshe Rabbeinu, a priori. Voilà, Banu el haaretz asher shelachtanu. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Et c'est effectivement comme Hachem l'avait dit, Eretz Zavat Chalavu Dvash, un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Donc, extraordinaire. Un rapport sur la terre, formidable. C'est extraordinaire. Donc, un rapport très, très positif. Très, très positif. Mais il y a un problème. Et puis, ce problème, il est introduit par un mot un peu étrange. Le mot qui est introduit, c'est le mot « Éphès ». Et « Éphès », ça veut dire « zéro ». C'est-à-dire, c'est comme s'il disait « Tout ce qu'on a dit là, c'est magnifique, ça, mais c'est réduit à zéro. Pourquoi ?« Ki az ha'am ha'yoshev ba'aretz » והרים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם המלאק, etc. Ça veut dire? Ça veut dire que tout ça, ça vaut rien du tout. Parce que Éphès. Parce que c'est vrai que c'est très joli, c'est très beau, c'est comme tu l'as dit, etc. Mais ce n'est pas pour nous, quoi. C'est impossible. Le peuple qui est là-bas, ils sont puissants, les villes sont fortifiées, elles sont très grandes. On a vu là-bas des géants, et les Amalek étaient là-bas. Dans la région du Negev, il y avait les Chittim, les Yevusim, les Ammonim. Tout le monde habite là, les Cananéens sont partout. Le Ramban fait remarquer que le pivot de leur récit, c'est ce mot Éphès, là, ce zéro-là. C'est un mot qui est très peu fréquent. Parce que ça, si vous voulez, ça réduit à néant tout le rapport très positif qu'ils ont donné. ce qu'ils ont dit, c'est effectivement, c'est vrai. Mais non, on ne pourra pas. C'est no, we can't. C'est pas, on ne pourra pas. Ils sont trop forts, ils sont terrifiants. Je pense qu'il y a toute une fantaisie, une imagination avec des géants, des machins, des trucs. C'est sûr que c'est normal que devant la guerre, on ait une réaction qui soit qui soit de peur. C'est logique, c'est normal. Hachem le savait que devant la guerre, il ne pouvait pas tenir. Puisque c'est pour ça qu'il ne les a pas fait passer par Erez Plishtim. Mais maintenant, la réaction que ça va susciter dans le peuple, ça, ce n'est pas du tout rationnel. Le peuple va produire, je vous ai dit, il va pleurer toute la nuit. Ils disent, on aurait préféré mourir en Égypte ou bien au moins dans le désert. Ils préfèrent mourir que d'affronter un désir de mourir, un risque de mourir. Le risque de mourir dans la guerre, ils préfèrent mourir. Alors finalement, ils disent quoi ? On va retourner en Égypte. Mais en Égypte, c'est le lieu de la mort. Les Bnei Israël qui ne sont pas sortis d'Égypte sont morts. L'Égypte n'est plus une terre possible pour les Bnei Israël. Donc dire on va retourner en Égypte, c'est dire on va aller mourir là-bas. Alors, évidemment, après, en décrivant effectivement tout ce qui était effrayant, il y a quelque chose de très important, c'est qu'ils disent dans le Passouk Lamed Aleph 31, ils disent « Ve'anashim asher alu imo » parce que ça, Caleb a voulu les faire taire. Enfin, il a réussi parce que, comme il allait porter un témoignage qui allait contre le leur, contre le témoignage des 10 explorateurs. Mais il a commencé son discours en disant « Est-ce que Ben Amram nous a pas fait seulement ça ?» etc. Donc, ils ont cru qu'il allait abonder dans leur sens. Et au contraire, Caleb a dit… Il a dit, allez, allez, virashnota. On va monter en Eretz Israël et on va hériter de cette terre. On pourra le faire. Yachol nuchalla. On peut le faire. Et les explorateurs ont dit non, on ne pourra pas. On ne pourra pas parce que le peuple qui est là-bas, chazak hu mimenu. Le peuple là-bas est plus fort que nous. Et ça vous savez, la graphie de Mimenu, c'est la même graphie que Mimeno. Ils ont donc dit, le peuple là-bas est plus fort qu'Hachem. Plus fort que lui. Et du coup, ça a changé, ils sont mis à dire du mal de cette terre dont ils avaient dit tellement de bien avant. Et ils vont dire, cette terre que nous avons donc exploré, c'est Eretz Ochelet Yoshvehai. C'est un pays qui mange ses habitants. Les habitants qui étaient pourtant des géants. Et en fait, nous, on s'est sentis comme si on était des sauterelles devant ces géants. Et eux, ils nous voyaient aussi comme des sauterelles. Alors là-dessus, il y a un Midrash Tanhuma. Qui dit comme ça, c'est Hachem qui le reproche au Bnei Israël de dire une chose pareille. Il dit, je peux admettre que les Bnei Israël se soient vus comme des sauterelles devant les géants, devant les gens de ce peuple. Mais quand ils disent, nous avons vu dans leurs yeux que eux nous voyaient comme des sauterelles. Ça, dit Hachem, ça me met en colère. Comment savez-vous comment ils vous voyaient? Comment est-ce que moi j'ai fait qu'ils vous voient? Qui vous a dit qu'ils ne vous voyaient pas comme des anges? Hachem a en quelque sorte analysé les paroles des explorateurs, se considérer comme sauterelle devant des géants. Bon, ça peut. C'est comme ça que, en vérité, l'être humain il commence toujours très petit et sans aucune force, etc. Et il était devant des géants, quoi. Donc, peut-être, effectivement, ça peut rester dans notre tête, comme on se voyait quand on était des bébés devant les adultes. Mais projeter ça dans les yeux des autres, ça c'est inacceptable. Donc, ce n'est pas seulement la peur. Mais ils se sentent vraiment FS. Ils se sentent vraiment nuls. Rien du tout. Ils ont peur de mourir. Parce que dans leur imagination, ils sont déjà morts. C'est pour ça qu'ils disent, si seulement on était mort en Égypte, ou dans le désert. Donc leur désir de retourner en Égypte, c'est de retourner dans la mort. C'est-à-dire sortir de cette imagination qui était la leur à ce moment-là. Hachem est très en colère de ce qu'ils n'ont pas été capables de penser autrement que de projeter ce qu'ils voyaient comme si les autres les voyaient comme eux, ils se voyaient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le texte, jusque-là, on a ce qu'on a lu jusqu'à présent, c'est au chapitre suivant de Yudalet, donc, Pasuk Aleph, Vatissa Kola Eda, Vaitnu et Kolam, Vaivku Haam, Valaila Ou. Donc, toute cette communauté s'est soulevée à Tissa. Et Vaitnu et Kolam, ils ont donné de la voix, ils ont pleuré la nuit, là, cette nuit-là. Et évidemment, ils se sont tournés contre Moshe et contre Aaron. Kol Bnei Israël, tous les Bnei Israël se sont tournés contre Moshe Rabbeinu. Vayomru Alehem Kol Haeda. Et donc, toute cette communauté ils ont tous dit à Moshe Rabbeinu et à Aaron Akoen, ils lui ont dit, Lou, matnu be'eretz Mitzrayim ou bamidbar hazeh, Lou, matnu. Si seulement on était mort en Égypte, ou au moins dans le désert. Pourquoi Hachem nous amène-t-il vers ce pays-là pour mourir par l'épée, par le glaive? Nos femmes, nos enfants vont être pris, réduits à l'esclavage en réalité, probablement. Tov lanu shuv Mitzrayma. Il vaut mieux retourner en Égypte. Vayomru ish el achiv, nitna rosh, venashuva Mitzrayma. C'est ça le verset. Ils se sont dit l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Donc une révolte contre Hachem, une révolte contre Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron, ils tombent face contre terre. On a l'impression que, eux, ils n'en peuvent plus, quoi. Alors ceux qui parlent maintenant, c'est Joshua et Caleb. Joshua bin Nun, le Caleb ben Yefuné, Minatarim et Taharetz, Karou Bigdehem, eux, ils ont déchiré leurs vêtements. Et ils ont parlé à toute la communauté des Bnei Israël en leur disant, Aharetz Asher Avarnu va à la tour Ota, le pays que nous avons traversé pour l'explorer, Tova Haaretz Meod Meod. Ce pays est bon, il est très très bon. Ça, disons, en tout cas, la première partie du discours des Meraglim allait aussi dans ce sens-là. Mais im chafetz banu Hashem levi otanu el haaretz hazot untana lanu eretz asher hi zavat chalav udvash. Donc, cette terre, si Hashem veut de nous, alors il nous amène dans cette terre, il nous la donne, une terre qui est, ou dans laquelle coule le miel. Arba Hashem al timrodu. Mais surtout, ne vous rebellez pas contre Hashem. Al tiruet ha'am ha'aretz. Ne craignez pas le peuple de cette terre, de la terre, qui lachmeinu hem. Ils sont notre pain. C'est-à-dire, on va les manger, quoi. Sartsilam et Aleem, leur ombre, les a quittés, ou leur protection les a quittés. Vachem itanu, al tiraou. Hachem est avec nous, ne les craignez pas. Et la réponse du peuple, ils ont voulu l'irgom otam bavanim. Le peuple voulait les lapider. Et probablement qu'ils seraient passés à l'acte, sauf que Kvod Hashem Nira Be'ol Moed, El Kol Bnei Israël. Mais la présence d'Hashem, la gloire d'Hashem s'est manifestée, tous les Bnei Israël, ça les a paralysés. Et à ce moment-là, il vient la condamnation à mort de cette génération. Hachem dit, jusqu'à quand ce peuple méritera-t-il Kidatsu? Jusqu'à quand est-ce qu'ils vont mériter, en fait? Jusqu'à quand ils ne me croiront pas? Ils n'ont pas confiance en moi? Avec tous les signes que j'ai manifestés en leur sein, quoi. Et Hachem fait une proposition. Il dit, je vais frapper le clan Israël avec la dever, a priori dever c'est la peste, et je vais le détruire complètement. Ve'orishenu ve'eseotra le goy gadol, atzum mimenu. Et je ferai de toi, mon cher, une nation plus grande et plus puissante que ce peuple-là. Donc, condamnation à mort du clan Israël et proposition qui est faite à Moshe Rabbeinu de fabriquer un nouveau clan Israël, un nouveau peuple, qui seront les descendants de Moshe Rabbeinu. C'est une condamnation à mort. Au Sinaï, il y a eu en fait une alliance entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël. Une alliance qui est comparée à un mariage. Un mariage entre un homme et une femme. Bon, c'est sur les psukim de Shir HaShirim, c'est Beyom Chatunato Zei Yom Matan Torah, le mariage, le jour du mariage du clan d'Israël avec Hachem, c'est le jour du don de la Torah. Et le mariage, c'est bien une alliance. Le Chet HaEgel, la faute du veau d'or, qui a eu lieu justement après le Mamad Har Sinaï, cette faute du veau d'or, elle a en quelque sorte déchiré en quelque sorte cette alliance. Ce que Ramban dit, בתחילת 40 יום הראשונים של לוחות הראשונים, כתב משה בספר הברית את כל דברי השם. משה רבינו avait écrit au début des 40 jours des premières לוחות, il avait écrit le ספר הברית, le livre de l'alliance. ויזרוק דם הברית אל העם, et il avait aspergé le sang de l'alliance sur le peuple. Et quand, dit Ramban, quand ils ont fauté avec le Hegel, on a brisé, comme Moshe Rabbeinu a dû briser les luchot, « Ke'ilu nid batla habrit » C'est comme si cette alliance avait été annulée du point de vue d'Hachem. Il y a eu un bitoul, une annulation en quelque sorte, du Brit. De la même manière, au moment de Meraglim, il se passe exactement la même chose. Et quelque part, Akadosh Baruch Hu dit, bon, c'est fini, c'est terminé. Je romps l'alliance avec le clan d'Israël et j'en fais une nouvelle avec toi. Seulement, Moshe Rabbeinu va répondre. Yomer Hashem El Moshe. Pardon, ça c'est Hashem, ce que je viens de vous lire là. Et Moshe Rabbeinu répond, Yomer Moshe El Hashem. Et alors, Moshe, il répond à Hachem, mais il lui dit, « Ok, si tu fais ça, « Veshamu Mitzrayim ki elita v'chochacha et amaze mikirbo » Alors, les Égyptiens du sein desquels tu as sorti les Bnei Israël, « V'amru el yoshev haaretz azot » et ils diront, à propos des habitants de cette terre, Shamu ki ata Hashem bekerev ha'am hazeh, toi tu es présent au sein même de ce peuple, Asher ayin be'ayin nira, ata Hashem ve'anancha, omed aleihem, ubamud anan ata olech lifneihem yomam ubamudesh laila. Ils vont savoir, ils vont dire que toi, Hachem, qui est face à, enfin, oui, disons, Aïn Be'aïn, oi à oi, en quelque sorte. Tu es apparu au Bnei Israël. Il y a toujours ta présence divine, cette nuée au-dessus d'eux. De jour, de nuit, etc. Et pourtant, les gens diront, et pourtant, tu as tué ce peuple comme un seul homme. Là, tu es en train de les tuer. Alors, qu'est-ce que vont dire les gens? Les nations qui ont entendu parler de ta renommée diront, parce qu'Hachem n'a pas eu le pouvoir de mener ce peuple dans la terre qu'il avait juré de leur donner, il les a égorgés dans le désert. Et il a dit, et maintenant, que grandisse la force de mon Seigneur, comme tu l'as affirmé, en disant que, donc c'est le fameux Yigdalna Koach Hashem, Kasher Dibart Alemor, Hashem, Erech Hapaim Rav Chesed, Nose Avon Rav Fesha, Inake lo inake poked avonavot al banim al shileshim val ribeim tzlachna l'avon ha'am hazeh kegodel chasdecha v'asher nasata l'avon hazeh mitzrayim v'adeina. Et donc le Moshe Rabbeinu a fait son plaidoyer. Vous voyez, il n'a pas essayé d'excuser les Bnei Israël. Il a dit à Hachem, si tu les tues, ça fait un chilul Hachem. Qu'est-ce que vont dire les gens? Les nations vont dire que tu n'avais pas le pouvoir d'être à la hauteur des promesses que tu as faites. Tu as fait des promesses, et dans l'incapacité de tenir tes promesses, tu as fait disparaître les témoins de ton incapacité de tenir la promesse. C'est ça, Moshe Rabbeinu n'est pas... Il a parlé du point de vue d'Hachem. C'est vrai, il n'y a rien à redire. C'est sûr que les Bnei Israël méritent d'être détruits. Mais si tu le fais, c'est un chilul Hachem. Donc tu es coincé. Et donc Hachem a répondu, Salarti Kidvarecha. Ok, j'ai pardonné à ce peuple selon ta parole, donc. Mais, malgré tout, j'ai dit des choses, elles vont se réaliser quand même. Ma gloire, elle doit remplir toute la terre. Donc, tous ceux qui ont vu ma gloire, tous les signes que j'ai manifestés en Égypte et dans le désert, et qui m'ont éprouvé 10 fois, ça c'est l'Ibn Israël. Donc tout ça, et qui ne m'écoutent pas, n'ont pas écouté ma voix. Alors, Hachem dit que c'est une espèce de serment qu'il fait. Ils ne verront pas la terre que j'ai promise à leurs ancêtres, à leur peuple. Tous ceux qui m'ont irrité ne verront pas cette terre. Et donc, seuls Caleb et Joshua. Voilà. Donc il leur annonce qu'ils vont crever dans le désert. Vos enfants, je les mènerai là-bas. C'est-à-dire, vos enfants dont vous avez dit qu'ils vont mourir, que je les ai amenés pour mourir dans le désert, pas du tout. Vos enfants, je vais les amener vers cette terre que vous avez méprisée, mais vos cadavres tomberont dans le désert. Alors ici, c'est le changement complet. Ça veut dire, au lieu d'entrer en Eretz Israël, on va se promener 40 ans. Toutes les années, il y a une partie du clan d'Israël qui va mourir autour de Tisha B'Av jusqu'à ce que toutes ces générations soient complètement éradiquées, à l'exception donc des deux qui sont Caleb et Joshua. Oui, alors. La question, c'est qu'ils n'ont pas simplement pas obéi à Hachem. C'est même pas en termes d'averot, de transgression. Ce qui ne s'est pas passé, si vous voulez, c'est qu'ils ont rompu l'alliance. Au Sinaï, il y a une alliance, et là, il y a rupture de l'alliance. En fait, ce qu'ils demandent, eux, c'est qu'ils disent: on veut tout annuler, on va revenir en arrière. On pourrait presque dire, revenons à zéro de notre... On revient en Égypte. Donc on déroule, on rebobine tout le film et on retourne en Égypte.
Oui, mais ça peut être compréhensible d'une certaine façon. L'Égypte, c'est pas forcément... Bien sûr, c'est la mort, mais c'est la mort qu'ils connaissent. C'est une mort à petit feu, mais au moins elle est connue. L'autre, elle faisait peur.
Oui, mais le problème, c'est la question, c'est les meraglim, c'est eux qui ont, ou bien si vous voulez, ils se sont racontés, ou bien ils racontent quelque chose qui est complètement faux, ou bien ils racontent ce qu'ils ont éprouvé, mais parce qu'ils se sont mis dans la situation d'éprouver ce qu'ils ont éprouvé. Alors, si on regarde le détail...
Oui mais à ce moment-là, Hachem a qu'à supprimer les méraglim.
Le problème, c'est que tout le peuple a été acquis aux idées des méraglim. Le peuple ne veut plus entrer. C'est-à-dire que les Meraglim ont un statut, en quelque sorte, de quelqu'un qui vient inciter tout un peuple à se révolter contre Hachem.
C'est ça, ou de représentant d'un sentiment quoi, global, général.
Non. L'idée, c'est que il faut expliquer pourquoi, tout à coup, ces gens qui sont les tzadikim, pourquoi ils viennent et ils racontent des choses qui ne sont pas vraiment vraies, ou plus exactement... Au fond, ils disent, par exemple, après avoir dit que la terre, c'est Rezavatra la voûte vache, mais ensuite, il dit la terre, elle mange ses habitants. D'où ils ont pris, pourquoi ils ont décidé une chose pareille? Parce que partout où ils arrivaient, il y avait des enterrements. À part ça, cette histoire des géants, si vous voulez, cette idée, c'est quand on met les deux choses en même temps. Ça produit des géants, mais ils n'ont pas de durée, quoi. Les gens sont... C'est un peu comme, en vérité, c'est la différence entre les peuples et le clan d'Israël. Les peuples, effectivement, c'est déjà ce qui avait été proposé, le deal qui a été proposé à Abraham Avinu. Est-ce que tu choisis la mort ou l'exil? Vous vous souvenez, Hachem lui a proposé ça. La mort, c'était quoi? La mort, c'est est-ce que ton peuple va être comme, disons même, une grande nation, mais qui va être très grand, mais pendant un court laps de temps. Il y a toujours cette idée qu'ils pensent qu'ils vont être très grands et ça va durer longtemps. Le Reich qui devait durer 1000 ans, bon, il a duré quelques années. C'était beaucoup trop, mais voilà. Mais c'est toujours comme ça. Et c'est ça que Avraham Avinu n'a pas voulu. Et eux, ils disent, ben, voilà, c'est ce qu'on a vu. C'est des géants, mais ils meurent très fréquemment. Alors, l'idée, c'est il fallait interpréter ce qu'il voyait.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, de toute manière, quand on vient explorer quelque chose, c'est toujours, et surtout quand on va en parler, d'accord, faire un discours sur ce qu'on a vu, c'est interpréter les choses. Il y a toujours une interprétation. L'interprétation, c'est quoi? Leur interprétation, c'est le pays mange ses habitants. Pourquoi? Le fait, c'est quoi? Il y a enterrement partout. Ok, alors maintenant tu peux te demander, tiens, c'est étrange qu'il y a des enterrements partout. Alors, on peut donner cette interprétation, mais on pouvait donner une autre interprétation, mais l'autre interprétation, elle utilisait le fait que les Bnei Israël ont expérimenté, ces gens-là, justement, ils ont expérimenté que les Makot, ils ont expérimenté la sortie d'Égypte, le passage de la mer, la guerre contre Amalek, le matin de Torah, etc. Tous les Nissim, etc. Ils ont bien vu qu'Hachem les prenait en charge tout le long. Donc, ils auraient dû continuer de regarder avec ce qu'ils savaient, à savoir Hachem est en train de nous prendre en main. Hachem, il gouverne le monde par rapport à nous. Il veut nous sortir d'Égypte. Il nous sort d'Égypte, il veut qu'on traverse la mer, voilà. Et donc, pourquoi les enterrements? Parce que lors des enterrements, il y a brassage de population. Et donc, dans les enterrements, on peut passer plus facilement inaperçu. Si chaque chose est à sa place, tu arrives dans le village, ça c'est des étrangers là. 12 étrangers, ça ne passait pas inaperçu. Et à partir du moment où il y a du brassage de population, ça pouvait paraître, ça permettait, mais dire que Hachem a fait en sorte qu'il y ait que les gens meurent pour qu'il y ait des enterrements, pour que les Bnei Israël, les explorateurs, passent inaperçus, si c'est déjà, ça veut dire, ok, Hachem va nous faire entrer dans ce pays, il fera ce qu'il faut pour que, effectivement, même s'il y a des. Même s'ils ont des villes fortifiées, etc., ça ne sera pas un problème.
Mais donc, il y a un problème d'Emouna, enfin, vraiment de confiance au moment ultime, c'est-à-dire de se jeter dans le vide d'une certaine façon. D'accord, on enlève cette génération, mais en quoi on est certain que la Emouna de la génération suivante, sans les pères, pourra rentrer et réinterpréter les choses autrement et vivre autrement.
Alors, ce qui va se passer, c'est que la grande différence, c'est que eux, ils ont vécu les choses. Donc, on leur demandait pas tellement d'avoir. Bon, bien sûr, il fallait avoir Emouna, mais c'est une Emouna relativement facile. Ils l'ont vécu. C'est vrai que jusque tant que la mer n'avait pas rejeté les cadavres des Égyptiens, ils se sont dit non, les Égyptiens sont remontés de l'autre côté. Hachem leur a demandé non, ils ne sont pas, vous voyez, ils ne sont pas remontés. Alors, donc ça fortifiait la Emouna. Donc eux, il y a une rupture de l'alliance, en fait. La génération d'après, elle va vivre sur des récits. Si vous voulez, au soir du Seder, à part Yeshua et Caleb, en Eretz Israël, personne ne dira j'y étais, hein, comme adulte. Personne ne pourra dire. Donc tout le monde va faire référence à un récit. Un récit qui va devenir une espèce de récit national ou bon, peu importe. Mais il va y avoir un récit. C'est ça le problème. Que nous sommes un peuple du récit. Et ça commence tout de suite. On est devenu un peuple du récit sans qu'il y ait une génération d'adultes, hommes, en Israël, qui viennent d'Égypte et qui aient vécu tout ce que les Israéliens ont vécu de façon totalement miraculeuse, etc. Ils ne sont plus là, à part Caleb et Yoshua. Donc, on est passé ma guerre, je vous raconte ma guerre, non ? Maintenant, une nouvelle génération, comme vous dites, on ne sait pas du tout, mais eux, ils vont devoir construire une Emouna qui ne va pas s'appuyer sur « nous l'avons vécu », s'ils ne l'ont pas vécu en tant qu'adulte, en tout cas. Et donc, c'est ça la grande différence, si vous voulez. Et c'est ça que Hachem disait, c'est raté. C'est raté parce que moi, je voulais faire entrer en Eretz Israël ces gens. Voilà, on va commencer la construction, enfin la conquête d'Eretz Israël. Et très certainement, si on était entré 40 ans plus tôt en Eretz Israël, il y aurait eu moins de développement de l'idolâtrie. Et nous, on aurait été beaucoup plus forts. Éventuellement, on serait même monté, je ne sais pas si on serait entré avec Moshe Rabbeinu ou pas à ce moment-là, j'en sais rien. Mais ça aurait été complètement différent. C'était peut-être qu'on n'aurait même pas eu besoin de faire une guerre pour chasser les gens. Peut-être que les gens, ou bien se seraient convertis, ou bien ils seraient partis, parce que bon, on n'a pas envie de vivre comme ça. Mais a priori, si les Bnei Israël étaient entrés en Eretz Israël, eh bien, les gens qui ont vécu ça, qui ont tout vécu depuis la sortie de l'Égypte, ces gens-là, ils auraient pu donner, ils auraient créé une ambiance dans cet état dans ce pays d'Israël qui aurait été complètement différente. Leur relation avec Hachem aurait été complètement différente aussi. Nous, on a dégringolé pendant 40 ans et les idolâtres ont. Au contraire, ils se sont développés pendant 40 ans une idolâtrie encore plus enfoncée dans le pays. Donc, c'est sûr que c'était un problème d'interprétation. Ils ont décidé d'interpréter les choses qu'elles aient dans le sens qu'ils voulaient, eux. Alors, il faut comprendre pourquoi ils ne voulaient pas entrer. Pourquoi ils ne voulaient pas entrer en Eretz Israël? D'abord, ça commence avec la nécessité d'envoyer des explorateurs. Jusqu'à présent, tout ce qu'Hachem avait dit, ça s'est toujours réalisé. Pourquoi il faut envoyer des explorateurs pour voir si le pays est bon? Comme si ils allaient entrer en Eretz Israël avec de la stratégie de l'école de guerre de je ne sais pas où, etc. C'est Hachem qui va les guider, donc comme il les a guidés dans le désert, comme il les a guidés, etc. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir? Par où il faut entrer. Voir par où il faut entrer, ça c'est une stratégie. C'est l'ordre normal des choses, mais le clan d'Israël n'est pas en train de vivre une vie normale. Alors tout à coup, et on voit très bien, il y a une indication, c'est que dans le récit de Dvarim, mon cher Abbé nous dit, vous êtes venus auprès de moi pour demander qu'on envoie les explorateurs, vous êtes venus kulchem, tous ensemble. Et là-bas, Rashi explique, vous êtes venus tous ensemble et vous n'êtes pas venus de façon ordonnée. Vous auriez dû venir avec les sages, et les, etc., de façon ordonnée, par tribu, etc., Bon, c'est une question, une très grande question. Mais là, c'est déjà, ça veut dire, c'est déjà complètement troublé, c'est déjà le flou. C'est déjà, toute la démarche est une démarche pas normale, en quelque sorte, pour des Bnei Israël qui sont en train de sortir d'Égypte. Et c'est ça, c'est déjà pourri dès le départ. Mais alors, finalement, il faut trouver des explications sur pourquoi ils ne voulaient pas entrer, eux, c'est les Meraglim. Le peuple n'avait pas dit qu'ils ne voulaient pas entrer. C'est eux qui... Alors, même si le peuple a dit on va envoyer des explorateurs, je pense que, bon, disons qu'on peut admettre ça. Hachem n'était pas pour, puisqu'Hachem dit... Mais c'est étonnant qu'Hachem les laissait se fourvoyer, puisqu'en fait, d'après ce que Rashi a dit, Hachem leur a déjà annoncé qu'ils vont se planter.
Mais ça, c'est pas... Comment dire ? Mais la question, c'est aussi comment se fait-il qu'ils résistent autant à cette émouna alors qu'ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu ? Et pourquoi résistent ? Qu'est-ce qui résiste comme quelque chose de presque, j'allais dire, fondamental, quoi ? C'est bizarre de résister autant. C'est parce que à ce moment-là, Hachem aurait pu les rassurer. C'est pas, ils voulaient pas rentrer parce qu'ils avaient peur. Peur, suivant le récit des explorateurs, qui avaient mal interprété la situation. Eux, ils ont peur. On pouvait les rassurer. C'est comme si il y avait, comme si Hachem disait non, il y a quelque chose de mort qui doit rester à la lisière. Parce que c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils sont porteurs et quel est le passage qui fait que eux sont porteurs de quelque chose qui a résisté, alors que la génération d'après, elle, va rentrer sans résister. C'est bizarre. Elle aurait pu rentrer. Elle a peut-être moins d'émouna que la génération précédente, mais elle va rentrer. Parce que c'est possible de faire quelque chose, on a l'impression. On a l'impression qu'eux, ils ne vont pas rentrer avec ce que la génération précédente a et qu'il ne faut pas qu'elle rentre. Comme un terreau qui de base.
Oui, enfin, le terreau de base, c'est qu'on a affaire à des esclaves égyptiens. Ces gens qui sont sortis sont des esclaves égyptiens. Et Hachem dit tout de suite, si on leur demande de faire la guerre, même avec moi, ils vont pas devoir faire une guerre avec... c'est pas à eux de prendre leurs épées pour aller faire la guerre.
Ouais, bah alors, on peut comprendre qu'il les a sortis, ils étaient au 49e degré. Ils se rendent compte qu'ils sont presque au 50e avec les explorateurs, finalement. Alors, mais nous... Quand on sort tous les ans d'Égypte, de notre Égypte, on est peut-être aussi pas si loin que ça. Alors évidemment, il y a le limoud et l'interprétation qu'on devrait avoir du monde, mais c'est aussi dur.
Oui, c'est dur, mais si vous voulez, on n'a pas une mentalité d'esclave, si vous parlez comme ça. La nouvelle génération, ils n'étaient pas esclaves égyptiens. En Égypte, les Bnei Israël étaient plus rien du tout. Il n'y avait plus aucune valeur. Ils avaient quasiment tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. C'était des Égyptiens, en vérité. Ils étaient complètement Égyptiens. 4/5 du peuple disent, mais nous, on est Égyptiens, on ne va pas sortir. Ils préfèrent être esclaves en Égypte, surtout qu'à ce moment-là, ils ne l'étaient plus vraiment, puisque... Après les Makotes, ils n'étaient plus réduits en esclavage. Ben voilà, on est égyptien, on va devenir égyptien. C'est tout.
Donc ce n'était pas eux qui comptaient, c'était ce qui allait arriver après, c'était leurs enfants.
Oui, on a l'impression que finalement, Hachem sait très bien que ça ne va pas marcher. Quoi.
Ah oui.
Il faudrait qu'ils se surpassent. On leur a donné quand même Moshe et Aaron pour se surpasser. Mais au contraire, ce qu'on dit d'ordinaire, enfin, que je comprends le mieux, si vous voulez, c'est en fait ces gens-là qui étaient les chefs. Ils étaient les chefs adéquats pour le Midbar. Ils n'étaient pas les chefs adéquats pour Eretz Israël. c'est pas du tout la même chose de diriger une tribu nomade dans le désert avec les conditions de vie qui sont complètement artificielles. On mange de la manne, on boit l'eau du puits de Myriam et on est protégé, il n'y a rien qui s'use, etc. Bon. Être là-bas chef de tribu, c'est une chose. C'en est une toute autre que d'être chef de tribu quand on est cette fois-ci sédentaire et qu'on va devoir vivre comme agriculteur, comme normalement, quoi. Même si Hachem va nous aider tout ce qu'on veut, mais c'est une autre vie. Et eux n'ont pas voulu abandonner leur pouvoir, mais pas. Il ne faut peut-être pas le lire. On peut, je ne sais pas, je voudrais dire qu'on peut peut-être le lire, pas simplement qu'ils ne voulaient pas lâcher le pouvoir, ça, ce serait classique, mais qu'il faut se souvenir que selon le statut qu'on a, on reçoit les enseignements de Torah avant les autres. Moshe Rabbeinu, quand il enseignait d'abord à son frère Aaron. Et Aaron, il lui enseignait la Torah. Et Aaron venait s'asseoir à côté de lui. On faisait entrer les enfants d'Aaron. On enseignait aux enfants d'Aaron qui venaient s'asseoir et ils écoutaient. Et entendre la parole d'Hachem, c'est l'acmé du plaisir, quoi, si vous voulez. Entendre la parole, même quand elle vient à travers Moshe, c'est une jouissance probablement inimaginable. Et donc, ne pas lâcher le pouvoir, quand on était chef de tribu, on entendait bien avant les autres. Et ce fameux Midrash où Moshe Rabbeinu nous dit, mais je veux bien entrer en Eretz Israël, même comme simple citoyen. Hachem lui dit, vraiment, tu crois? Et il le met à l'épreuve, et Hachem et Moshe Rabbeinu lui dit, non, c'est pas possible. Quand Yoshua, il sort de Yoel Moed, après avoir parlé avec Hachem, Moshe Rabbeinu se précipite vers lui, il dit, qu'est-ce qu'Hachem a dit? Alors Yoshua lui dit, mais mon maître Moshe, c'est pas comme ça. Tu dois te mettre à la file, là, et tu fais la queue, et tu seras, tu es peut-être le 470 000e, à entendre la Torah. Moshe Rabbeinu, on va plutôt courir tout de suite. C'est probablement pas possible. Presque pas possible d'abandonner cela. Sauf si on comprend qu'on est vraiment à ce point-là au service d'Hachem que bon, je suis prêt. D'accord, c'est tout. Et à ça, ils n'étaient pas prêts. C'est comme ça qu'on peut lire grossièrement qu'ils ne voulaient pas lâcher le pouvoir. Mais je pense qu'il faut comprendre que ce n'est pas simplement le pouvoir, parce que finalement, est-ce que dans le désert, ils avaient tellement de pouvoir? Je ne sais pas. J'ai du mal à voir exactement quel pouvoir ils avaient. Dans le désert, ils ne pouvaient pas... Bon, probablement que s'il y avait eu des disputes, peut-être ils allaient... Je sais pas, mais sur quoi ils vont se disputer? Sur les terres, personne n'a de terre, je veux dire... Il y a sûrement des disputes, mais quel est le privilège des chefs? Bon, les chefs, c'était probablement des gens qui allaient enseigner de la Torah aussi, qui allaient être des modèles, etc. Bon, ils n'étaient pas des modèles pour... ils ont compris qu'ils ne seraient pas des modèles en Israël.
Mais Rabbi, on peut difficilement quand même faire reposer sur la tête ou sur les épaules de 10 chefs de tribu, la grande menace de destruction totale d'Ebné Israël. Je crois que là, difficile à entendre ça.
Oui, sauf qu'il faut prendre la mesure de ce que ces gens-là représentaient. Chacun représentait une tribu. Donc, ils représentaient chacun des milliers de personnes, et ils avaient un impact. Quand eux, ils ont dit on ne peut pas y aller, le peuple a compris qu'on ne pouvait pas y aller.